tous pour cette 36e émission de l'art qui parle de notre temps. Aujourd'hui, nous allons consacrer l'émission entière à notre rencontre avec Fanny Ivanov-Stahl, qui gère des accueils d'artistes à la maison Artagon de Vitry-aux-Loges. C'est un lieu qui conduit une aventure singulière en offrant la possibilité aux artistes de mettre en sourdine leur vie et leur activité habituelle pour consacrer un temps uniquement à la réflexion sur leur travail, leurs recherches, leurs projets et à la disponibilité d'une rencontre. Ce lieu à Vitry-aux-Loges est l'une des facettes des actions nombreuses de l'activité de l'association Artagon, dont nous essaierons de dessiner les contours. La programmation musicale sera consacrée à Tilassine, qui parvient à associer la musique classique, la musique contemporaine, avec la musique électronique, notamment celle de Satie, puis quelques mesures de celle de Vivaldi.
Thank you.
Bonjour.
Bonjour.
Je vous remercie beaucoup de m'accueillir dans la maison d'Artacon à Vitry-aux-Loges. C'est vrai que j'ai été assez intrigué quand j'ai connu cette maison, déjà parce que c'était sur un territoire que je connaissais bien ou que je croyais bien connaître. Immédiatement, dès que j'en ai eu connaissance, je me suis dit que j'allais faire un petit tour pour en parler de cette aventure. On va le comprendre dans le déroulé de notre entretien, de cette aventure qu'est Artagon. Pouvez-vous me dire déjà pourquoi Artagon ?
C'est le nom, il a été créé, c'est une référence à Art et à Aegon. Et en grec, Aegon, c'était le lieu en fait de la rencontre. Il faut savoir que l'association Artagon, c'était vraiment une association qui organisait des expositions dans les écoles d'art en France, à partir de rencontres qui avaient été faites dans les différentes écoles de France et aussi d'autres pays d'Europe. Ils organisaient des expositions collectives. Donc il y avait un petit peu aussi une dimension quand même de concours. Et du coup, le nom Artagon est né de là. Et après, il est resté avec un élargissement, en fait, finalement, du mot Aegon à quelque chose de presque du rassemblement. Voilà.
C'est cette idée de forum, de
exactement,
place de rencontre,
tout à fait,
d'échange, etc. Donc, en effet, au départ, comme vous l'avez dit, ça commence par ces expositions internationales des
oui.
écoles d'art qu'organisent en fait deux personnes,
oui.
donc qui sont les fondateurs en fait de cette structure associative, parce que
oui.
c'est une structure associative.
Tout à fait.
C'est donc deux fondateurs sont Anna Labouze et Kémy Séni. Pourquoi ils sont intéressés aux écoles d'art d'emblée?
Bah, en fait, je pense que c'était une volonté de se poser la question de quid de la suite pour des étudiants et étudiantes en art, et notamment du passage entre la fin des études et le début d'une réelle insertion dans le milieu professionnel artistique. Et du coup, cette volonté d'organiser des concours, elle était aussi motivée par le souhait d'organiser des rencontres avec des jurys qui étaient eux-mêmes constitués de professionnels de l'art, donc des personnes dans le contexte plus du marché de l'art, de galeries, des personnes dans le contexte public. Le concours et l'exposition finale et la sélection, c'était aussi une façon de créer un premier lien avec des professionnels. Et je pense logique, justement, de vraiment aller vers les écoles d'art pour accompagner les jeunes artistes. Et c'est vraiment ce qui motive encore l'association aujourd'hui.
Oui, mais c'est quand même une démarche qui est une démarche, on va dire, une approche assez sociale de
oui, bien
la
sûr.
Situation de l'étudiant.
Ah oui, oui, bien sûr, oui, de toute évidence.
Comment il intègre le monde de l'art plus largement, comment on
ouais.
lui donne des possibilités et de travailler et d'exposer
oui,
et
bien
de rencontrer.
Sûr.
Ces deux personnes donc, ont commencé ces expositions, ont fait différentes aussi autres expositions. Et puis, ils sont devenus, à la suite de la fin du contrat CNAI au magasin Généraux de Pantin, ils sont devenus donc des co-directeurs. Donc, ils font des expositions actuellement encore.
Oui, oui, tout à fait.
Alors, j'ai vu aussi qu'ils avaient une activité un peu débordante. D'une part, parce qu'ils ont des positionnements par rapport à des institutions assez importantes comme le CNACERAC qui est un lieu important de décision de ce qui se passe pour les écoles d'art en matière à la fois d'organisation, de recherche et autres. Et puis j'ai vu que récemment ils étaient engagés dans une triennale à Nîmes. Ça a l'air comme d'être une success story parce que quand on y regarde de près, alors que, comme je vous l'avais dit, j'ignorais tout ça, on voit qu'ils ont leur structure assez rapidement grossi.
C'est allé très très vite. La structure a très vite grossi. Les lieux ont aussi commencé à apparaître petit à petit, de façon plus ou moins rapprochée. Et les équipes se sont constituées aux différents lieux, en tout cas pour ce qui concerne l'association Artagon.
Il y a à peu près combien de salariés? 7, 10?
Nous sommes aujourd'hui, on est une petite dizaine, entre 8 et 10 personnes, ce qui n'est pas non plus tant que ça au vu de tout ce qui se passe, mais ce qui est quand même conséquent pour, on va dire, une courte période comme celle-ci, de quelques années de mise en place de tous ces espaces et ces programmes-là, quoi.
Oui, de 14 à 24, ça fait à peine 10 ans.
Oui, tout
donc
à fait.
Ça fait déjà beaucoup de salariés. C'est quand même assez impressionnant. Quels sont, en fait, je ne sais pas, globalement, bien entendu, les financements ?
Aujourd'hui, la maison, elle bénéficie des financements qui sont donc alloués à l'association. Donc, par exemple, ce qui est très précieux, c'est d'avoir réussi à avoir une forme de convention pluriannuelle avec le ministère de la Culture, mais du coup à échelle centrale. Et après, plus spécifiquement, donc on est financé aujourd'hui par le département du Loiret, et on touche également donc des fonds privés qui sont alloués notamment par la Fondation de France, principalement.
C'est une mise à disposition gratuite de la maison par une sorte de mécène, c'est comme ça ou
C'est une mise à disposition de la maison par une personne, en effet, qui souhaite que la maison puisse être habitée et entretenue sans l'occuper, qui du coup a eu ce geste, en effet, de la mettre à disposition à titre gracieux. Donc ce qui est très précieux, en échange, bien entendu, que l'association Artagon prenne en charge l'entretien du lieu et ses potentielles réparations, ses frais, ses charges, qui sont finalement les principales sources de dépenses finalement de ce lieu.
C'est vraiment, je trouve, une belle aventure. Alors c'est vrai qu'on les autres lieux donc qui sont à la fois Pantin, donc au début un ancien
collège, oui.
C'est des mises à disposition liées à la mairie.
Exactement, oui, la mairie de Pantin, oui.
Et alors, c'est vrai que c'est important, et qu'est-ce qui s'y passe un peu dans ces lieux-là
pour dans les autres
idée,
lieux
ouais. Celui de Pantin,
en fait, c'est des espaces qui sont vraiment des espaces d'atelier et de production. Donc concrètement, c'est quand même des grands bâtiments avec un nombre de pièces assez conséquent. Et donc les artistes ou les porteurs et porteuses de projets, donc qui sont des personnes qui vont par exemple ne pas avoir besoin d'un espace de production parce que elles sont une activité davantage liée à l'écriture, à l'organisation d'une association par exemple. Donc c'est des espaces qui sont plus des bureaux. Donc il y a vraiment deux types de lieux, les bureaux et les ateliers. Et concrètement, les personnes se retrouvent à avoir cet espace dont elles payent un loyer assez dérisoire mensuellement, et elles l'occupent pendant 18 mois. Et donc la condition, c'est que pour le coup, les personnes vivent à proximité. Et dans chaque lieu, il y a aussi des espaces communs, par exemple avec de mise à disposition de matériel de son, vidéo, des espaces d'édition, des espaces des studios danse. Un contexte d'accompagnement, ce qui est essentiel, de par l'équipe, puis aussi un contexte de rencontre et de formation.
Mais il y a aussi pas mal d'activités à l'intérieur de ces structures. Il y a vers les quartiers, il y a plein d'autres choses.
Oui, tout à fait. Tous les lieux qui sont créés ou initiés par l'association Artagon ont tous en commun, et ça c'est vraiment le lien systématique, d'être des lieux finalement où il y a une forte part de réflexion et d'action, de mise en pratique, de projets et de programmes de ce qu'on appelle de l'action territoriale et de l'ancrage local finalement, pour ensuite faciliter et fluidifier la mise en place de projets qu'on appelle assez largement des projets partagés, qui souvent engage un ou une artiste ou plusieurs artistes avec un public plutôt spécifique et potentiellement une structure du territoire, par exemple. Donc ça crée un trio qui permet de penser des projets vraiment, j'ai envie de dire, sur mesure, quoi.
Ce qui se passe à Pantin et ce qui se passe à Marseille est finalement assez proche, hein, oui. J'ai cru comprendre. Sauf qu'ici, on est vraiment sur tout à fait autre chose.
La maison ici, la maison Artagon, c'est presque un peu un pendant des autres lieux finalement. C'est vraiment un lieu qui n'est pas vraiment un espace de résidence, parce qu'en réalité il n'y a pas de rémunération, donc on ne peut pas à proprement parler d'une résidence. Mais c'est un espace en fait de non-production, qui est justement pensé pour permettre en fait à toute personne évoluant dans la création contemporaine, de pouvoir s'accorder un temps dans un espace, j'ai envie de dire, relativement neutre pour elle et pour eux, afin de vraiment pouvoir avoir une qualité de concentration et de temps et d'espace pour s'engager ou terminer ou poursuivre un travail généralement lié à de la recherche, à de la lecture, à de l'écriture, à de la mise en mots, quelle que soit la discipline finalement. Et ça, c'est assez intéressant de pouvoir accorder cette qualité de temps et d'espace à des personnes qui sont souvent quand même surmenées en fait quotidiennement par et leur activité et leur travail alimentaire et le manque de place dans leur appartement. Enfin, plein de raisons font que c'est un espace assez précieux.
Ça devient un espace finalement presque suspendu par rapport à leur activité en fait. Un côté, et c'est là que c'est assez étonnant et assez, je trouve assez nouveau dans la façon de concevoir ce programme, c'est que c'est un programme dont on peut dire qu'il est complètement généreux puisqu'il ne demande aucune contrepartie. Il est à la fois ouvert puisque là encore, il est co-service et que pour le développement des artistes et des rencontres qu'ils peuvent réaliser ensemble. Et tout ça, bien entendu, pour leur permettre ce temps qu'on néglige trop souvent, en tout cas au niveau des artistes. C'est ce temps perdu, ce temps gagné parce qu'on prend le temps de lire. C'est ce temps, en tout cas, qui n'est pas dans l'activité des fois un peu délirante des artistes actuels, puisque au 19e siècle, il y avait quand même des artistes qui étaient plus dans leur atelier, plus isolés, mais qu'aujourd'hui, où les artistes sont complètement connectés au monde social, à tout niveau d'ailleurs, dans leur activité, mais aussi dans la place qu'ils ont dans la société. On n'est plus dans des artistes qui sont marginalisés par la société, mais au contraire, qui sont terriblement intégrés dedans, et même des fois, on pourrait dire, très, très employés. Mais en fait, ici, il y a une vraie liberté.
Oui, il y a une totale liberté pour chaque personne venant ici, sachant que vraiment, quotidiennement, l'idée aussi est de ne pas rejouer justement ces enjeux de restitution, par exemple. C'est-à-dire qu'on pourrait assez facilement tomber dans quelque chose de très programmé, avec un début, une arrivée, une fin. Et il y a des temps collectifs d'échange qui sont mis en place au cours des semaines, qui permettent quand même des repères ou des marqueurs temporels sur cette période de 3 semaines qui parfois peut paraître finalement très longue et un peu sans fin. Et en fait, c'est assez compliqué de trouver un équilibre moi dans ma position notamment, entre finalement donner une totale liberté, mais quand même être présent et montrer qu'on est disponible pour l'accompagnement, pour apporter un regard, du temps. Et ce qui est vraiment ultime et très précieux dans cet espace, et donc il est possible parfois de s'accorder 3, 4, 5 heures d'affilée à s'écouter, à discuter, à échanger. Du coup, j'essaye de valoriser ce temps-là.
Ces temps collectifs, c'est intéressant de voir votre position, qui est une position pas très aisé en soi, parce que ces temps que vous captez en fait quelque part ou que vous suscitez restent tout à fait informels, puisqu'il n'y a pas de structuration, il n'y a pas d'invitation régulière de telle heure ou même une fois par mois à telle chose ou à telle autre. Comment vous procédez? Vous laissez le temps, vous favorisez, comment, parce que votre travail n'est pas très facile à ce niveau-là.
Généralement, j'attends de voir aussi, d'une part, je pense, le degré presque d'autonomie de la personne, enfin des personnes qui viennent ici, de sentir aussi dans... On accueille des pratiques émergentes, donc des jeunes artistes et professionnels, mais bien entendu, certains et certaines sont beaucoup plus avancés, autonomes dans leurs projets que d'autres. Certains et certaines sont dans des moments de transition, tandis que parfois, il y a un projet qui est très défini et très clair. Il y a aussi des enjeux de tempérament, des personnes qui sont parfois beaucoup plus réservées et impressionnables. Donc il y a aussi ces enjeux de notoriété, d'inégalité un petit peu qui se jouent. Et puis la différence des pratiques. Donc parfois, je ne sais pas, mais mettons peut-être qu'il y a 4 artistes plasticiens, plasticiennes et une personne qui a une pratique de la danse. Et peut-être qu'elle va un petit peu moins oser poser de questions ou s'intéresser ou comprendre les codes. Mais c'est aussi tout aussi intéressant parce que ça permet de rebattre les cartes et de pas partir toujours de présupposés qui nous sont évidents quand on évolue dans une discipline, par exemple, depuis plusieurs années. Donc c'est un peu des enjeux humains finalement de comprendre un petit peu ce qui se passe, de savoir s'effacer quand les choses sont en train de se passer. Parfois il y a un élan collectif, une organisation en collectif qui se fait assez rapidement et auquel cas je participe, mais finalement je ne cherche pas à initier. Et quand je sens que parfois, aussi par envie propre, mais par besoin peut-être d'influer un petit élan, je propose voilà des temps de rencontre, mais qui sont compliqués à ne pas rendre gênants parce que ça c'est compliqué que ça ne se transforme pas en présentation très solennel, un petit peu, vous voyez, comme on peut le faire dans les écoles d'art quand on doit parler de sa pratique. Donc c'est compliqué de pas tomber dans ça. Mais par exemple, je vous donne un exemple d'un temps qui fonctionne bien, que j'ai proposé là pour prochainement aux artistes, c'est de partager un texte qu'on a lu, qui nous intéresse. Donc en fait, juste le choix même de partager ce texte dit quelque chose, donc il nous permet ensuite d'engendrer sur une discussion, sur un projet précis, sur une pratique générale, mais c'est une façon de s'introduire par autre chose, par autrui, par une autre parole. Donc on lit le texte, mais ce ne sont pas nos mots, et ça me permet moi aussi de participer. Donc finalement, ce sont des temps assez, assez riches et assez intéressants, qui vraiment permettent une qualité d'écoute et d'échange très précieuse.
Alors, il y a deux choses que je relève dans ce que vous dites. La première, c'est que, qui questionne immédiatement, c'est la sélection des gens qui viennent. Comment s'opère-t-elle ? Est-elle pré-organisée ou non, etc. Puis après, je viendrai sur mon deuxième point.
La sélection, c'est une sélection qui est comme, j'ai envie de dire, somme toute assez commune à d'autres espaces et d'autres dispositifs. Donc concrètement, on réalise un appel à candidature qui est ouvert généralement. On ouvre à peu près 3 appels dans l'année. On fonctionne par saison, donc on accueille environ par saison peut-être une bonne trentaine d'artistes. Donc mettons, on va lancer un appel pour la saison printemps-été. Et donc cet appel va courir sur 4 à 5 semaines et ensuite on réalise la sélection des personnes en interne de l'équipe. Donc c'est un travail qu'on mène entre nous. On n'a pas de comité de sélection contrairement aux autres lieux parce que finalement les appels sont quand même très réguliers, très récurrents. Il y a moins d'enjeux. Enfin voilà, on le réalise entre nous et ça fonctionne plutôt bien. Et donc ensuite, une fois que les artistes et porteurs, porteuses de projets sont sélectionnés, on convient ensuite d'une date, qui est un moment un petit peu délicat parce que finalement, les enjeux de calendrier, c'est aussi quelque chose de complexe, parce que les personnes vont parfois venir de plus ou moins loin déjà, et qu'en plus, souvent, leur quotidien s'est rythmé de parfois un aller-retour pour un atelier sur telle date. Enfin voilà, l'enjeu est de réussir à trouver de façon la plus fluide possible les dates qui conviennent, et ensuite, à partir de là, on constitue du coup des groupes de séjours qui vont être donc des séjours de 3 semaines qui vont courir. Généralement, on a à peu près actuellement 3-4 séjours par saison. On accueille 5 personnes à la fois pour chaque séjour.
C'est intéressant ce que vous dites, c'est qu'en fait, c'est les logiques calendaires. Et donc, du coup, l'appariement est finalement redevient quelque part un peu aléatoire, non pas forcément sur la désignation des gens, mais en tout cas sur leur appariement.
Oui, tout à fait. On a finalement, je pense, un lieu aujourd'hui qui est assez, qui aujourd'hui a une petite réputation pour ça, je crois. Enfin, en tout cas, le mot ou l'écho s'est fait d'un espace qui est un lieu où finalement on tombe toujours bien sur des personnes avec qui des choses se passent humainement, dans la pratique, dans les échanges, les intérêts aussi, les enjeux de réflexion. Comme on le disait, comme l'association Artagon est quand même une association engagée. Elle a aussi volonté d'accueillir des artistes qui généralement se positionnent et se questionnent sur le contexte et on va dire les enjeux contemporains de leur société au sens très large. Et donc on a finalement des personnes qui se retrouvent par pur hasard, comme vous dites, de date ensemble. Et aussi, par exemple, des personnes qui auraient pu ne jamais se croiser parce que n'habitant pas du tout dans les mêmes, espaces, que ce soit à échelle française ou européenne et internationale, puisqu'on a aussi des artistes qui ne viennent pas de France. Ça a créé, entre guillemets, un joyeux mélange de personnes qui, finalement, voient un peu un nouveau souffle, quoi. J'en parlais hier avec certains et certaines. C'est une façon, un petit peu, parfois, de sortir de notre petite famille habituelle pour faire d'autres rencontres, élargir ses perspectives, mais tout en étant, comme vous le dites, avec une certaine affinité permanente, en fait, qui est assez précieuse.
Oui, oui, bien sûr, mais bon, des rencontres, les artistes en font à l'occasion d'expositions, de rencontres, etc., dans leur vie professionnelle. L'intérêt là, c'est qu'ils ont le temps, puisqu'ils ont le temps de, au moins, de se côtoyer, de s'échanger aussi sur différents plans, qui n'est pas que le plan artistique, mais aussi qui est de leur personnalité, de leur façon d'être dans la vie, parce qu'il y a quand même cette idée... Au-delà du temps suspendu, comme on l'a dit, qui est très précieux pour un artiste, d'être en mesure de mener des rencontres, des échanges, dégagés de toute contrainte, en même temps, il y a quand même, quelque part, une notion collective qui s'opère. Comment se joue la vie collective
en fait, c'est central, c'est ce que j'essaie de dire tout à l'heure avec la dimension de rencontre, c'est que c'est vraiment un espace de vie. Donc en fait, aujourd'hui, les questions et les enjeux de relations humaines et de cohabitation sont tout autant importants, voire plus importants que la façon dont on va se présenter sur sa pratique ou, j'ai envie de dire, la qualité du travail, par exemple. Enfin, en fait, tout se mélange et finalement, il y a comme vous dites, c'est à différents niveaux de rencontres. Et je pense que la rencontre personnelle prime constamment. C'est-à-dire que finalement, parfois, les personnes vont venir s'isoler la journée pour travailler et descendre le soir, se retrouver collectivement pour cuisiner, pour passer du temps ensemble et aborder assez facilement et intuitivement des discussions assez personnelles ou sur un plan, j'ai envie de dire, informel. Et du coup, l'enjeu, c'est parfois de justement réussir à emmener ces personnes sur un espace collectif pour parler de leur pratique. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert petit à petit. Mais du coup, de réussir à généralement, il n'y a rien à faire. Hein. Mais ce qui est super, c'est de voir parfois que les personnes jonglent constamment en fait, entre l'informel, le personnel, l'humain, et une discussion sur leur pratique, sur des lectures, sur des recherches. Et les connexions sont très fortes quand elles se font à deux niveaux. Et ça, c'est vrai que c'est assez intéressant et assez précieux. Et c'est aussi pour ça que, encore une fois, aujourd'hui, le mot passe de cette maison en grande partie pour ça. Et au début, c'est pas quelque chose qu'on avait anticipé. On le voyait vraiment comme un lieu de retraite. On voyait la dimension personnelle, réflexive, etc. Et en fait, c'est vraiment dans un second temps qu'on a compris le caractère assez rare et exclusif de ce contexte de rencontre et de cohabitation, et même le fait que les personnes préparent à manger ensemble, la nourriture c'est un point central de ce lieu, c'est vraiment ce qui relie en fait toute personne étant passée par cette maison, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez rare, et finalement il y a constamment, pareil, moi je ne donne aucune indication en termes d'organisation. Pour ce qui est des repas, je laisse chaque groupe trouver son organisation parce que il y a vraiment à chaque fois en fonction des tempéraments, des envies de chacun chacune, des modes d'organisation qui vont se faire et c'est important que ça puisse se déployer de façon totalement autonome, quoi.
Non, alors c'est très intéressant ce que vous dites parce que quelque part un peu on peut dire que c'est presque une expérience parce que vous dites que vous glissez en fait de la vie commune vers des potentialités de rencontres et d'échanges, de discussions, etc. qui ne sont absolument pas dans lesquelles il n'y a aucune intervention ni de votre part, mais qui se font par le fait de la dynamique en fait de la vie collective. Donc ça, je trouve ça assez intéressant parce que ça suppose quand même beaucoup de finesse dans l'approche des personnes et puis beaucoup de retenue parce que un acte qui pourrait paraître à un moment plus autoritaire pourrait entraîner tout de suite des formes de rejet, non ?
Oui, bah, c'est compliqué de trouver cette posture-là aussi, mais je pense que ça nécessite vraiment un recul, mais même par rapport à des enjeux de lieu, d'espace domestique, où finalement, on pourrait toujours glisser vers quelque chose d'un petit peu qui partirait du principe que, il va toujours y avoir erreur, qu'il faut tout préciser, qu'il faut informer constamment, comment dire, sur-organiser, sur-contrôler un espace finalement, parce qu'avec un lieu avec autant de passages, c'est des enjeux bah d'accueil dans un espace partagé. Et j'essaye vraiment de ne pas. De vraiment rester en recul et avec du retrait, parce que après on peut vite tomber sur aussi des finalement presque un peu une infantilisation des personnes qui peut créer vraiment un fossé finalement entre nous et les personnes qui viennent. Et du coup, c'est des enjeux de positionnement qui me sont assez chers et auxquels il est intéressant de se questionner pour sur lesquels il est intéressant de se questionner pour ne pas tomber dans trop de travers, être trop central en fait finalement. C'est important de partir à un moment quoi.
Bah, d'abord, vous touchez un point qui pour moi me paraît très important, même si aujourd'hui tout notre système laisse à penser le contraire. C'est que je pense que pour faire un certain nombre de choses, il faut accepter les pertes de contrôle. Qu'il n'y a pas d'autorité sans perte de contrôle. Mais ce qui veut dire que la perte de contrôle est souvent la seule façon de pouvoir faire en sorte que des choses évoluent entre les gens. Ça veut pas dire, je veux dire, ça veut pas dire qu'on ne veille pas. Ça veut pas dire qu'on n'est pas aux soins d'eux, qu'on n'est pas à l'attention d'eux. Je rebondis en me posant la question de savoir qu'est-ce qui vous préparait à. Est-ce que vous étiez préparé quand vous êtes arrivé sur ce poste à avoir une telle mission?
Je pense qu'en arrivant, j'avais pas conscience de, comment dire, de la complexité relationnelle et finalement la dimension d'intelligence émotionnelle que ça requiert en fait. Je le voyais pas à ce point-là finalement, mais c'est vrai qu'à une période, on a accueilli vraiment beaucoup beaucoup de personnes sur des périodes vraiment où il y avait sans interruption, sans fermeture de la maison. Et oui, en effet, comme vous dites, il y a quelque chose d'être toujours aux soins d'eux, disponible, de veiller à chaque personne. Et voulant aussi, je pense, bien faire les choses, c'est vrai qu'on se retrouve vite à finalement toujours être dans l'analyse, dans la réadaptation. Finalement, en fait, ce qui est curieux, c'est que quand une personne arrive, tout autant la personne découvre un nouvel espace. Tout autant nous, étant fixes dans cet endroit, on redécouvre un espace différent, comme s'il s'agissait finalement presque d'une nouvelle expérience, d'un nouveau lieu. Et c'est ce que je dis à chaque personne qui ont parfois du mal à le croire, c'est que il y a eu quasiment 200 personnes aujourd'hui qui sont passées par la maison depuis l'ouverture il y a 2 années bientôt. Et à chaque fois, l'impression d'un nouveau lieu est très forte finalement. Alors que quand bien même c'est la même maison habitée de la même façon, il y a plein d'échos qui se font, des motifs qui reviennent. Mais c'est vrai que c'est en tout cas quelque chose de très fort relationnellement. Mais je pense que c'est intéressant de se confronter à ces enjeux-là, surtout dans un contexte de l'art contemporain ou d'une scène de la création, où finalement ces espaces de cohabitation où de résidences deviennent de plus en plus présents. Je pense que si la dimension collective, de vie collective et de pratique collective se déploie beaucoup, et je pense qu'à l'avenir, ce type de position ou de poste, de rôle professionnel, va être assez présent. Et du coup, c'est intéressant aussi de voir comment on déploie ça et de peut-être aussi réussir à circonscrire les choses, à prendre un petit peu du recul. Parce qu'au début, c'est vrai que j'ai beaucoup tâtonné et ça peut être aussi un petit peu fatigant et épuisant de à la fois faire son travail et en même temps de chercher à comprendre les contours de son travail aussi.
Alors, il y a deux choses qui sont passionnantes. C'est-à-dire, quand vous dites que l'espace change en fonction des gens qui l'habitent, il n'y a que vous, hein, qui pouvez en avoir la perception. Il n'y a que vous qui pouvez mesurer en fait ce qui se passe entre les gens. Mais il me semble que ce qui vous intéresse, c'est de porter la dynamique, de faire en sorte qu'il y ait des échanges, des rencontres. Mais pour vous, en tant que, même si vous bénéficiez bien entendu de la richesse de tout ce qui peut se passer, vous êtes dans un rapport, non pas, moi je pense, fondamentalement d'analyse comme on pourrait le penser, mais vous êtes dans un espace de retrait, d'attente, de veille, d'écoute et de, je dirais, et de l'autre sens, d'incitation à faire en sorte que cette dynamique puisse fonctionner. Est-ce que c'est assez proche que je dis ou pas du tout ?
Oui, vous avez tout à fait raison. C'est des choses que, sur lesquelles aujourd'hui je peux mettre des mots avec le recul. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, si une autre personne avait mené ce travail, elle aurait probablement investi les choses différemment, et peut-être que d'autres choses auraient été mises en avant dans son positionnement aussi. Peut-être que ça aurait coloré aussi autrement le lieu, je sais pas du tout. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en effet, c'est quelque chose de très important d'être dans ce retrait et, comme vous dites, cette veille attentive, quoi. Et cette disponibilité, mais qui reste sagement sur le côté, tout en veillant.
Et ceux qui vous ont confié cette charge, ils vous ont laissé libre, eux aussi, en fait, ils ne vous ont pas donné tant d'instructions que ça.
Non, c'est vrai que c'est aussi la particularité de ce poste. Donc c'est vrai que c'est presque à double tranchant, parce que parfois c'est un peu, dans les moments un petit peu compliqués ou de fatigue, c'est compliqué de se dire qu'on a la propre décision des contours de son propre travail. Mais finalement, c'est vrai que ça a été très précieux pour moi de commencer dans un contexte où le lieu n'existait pas. Il était donc une maison, et de passer de maison privée, fermée au public, à un lieu d'accueil de plusieurs dizaines de personnes par saison, avec des ateliers, de la programmation, de aussi se faire connaître à différentes échelles du territoire. Et toutes ces choses-là font que forcément, on déploie petit à petit des choses. Et ça, c'est très, très, c'était très, très intéressant.
Alors, oui. Revenons maintenant plutôt sur l'extérieur. Bien entendu, il y a beaucoup d'articulations entre ce lieu de résidence et les autres activités d'Artagon, puisque, en fait, on se rend compte, quand on regarde les artistes qui sont sélectionnés là actuellement, qu'ils ont tous préalablement, quelque part, un lien avec soit une exposition, soit un prix, soit auquel est lié, quelque part, Artagon.
Alors, pas exactement. C'est vrai que en fait, ça s'est fait dans deux contextes. Au début, on a accueilli des personnes qui n'avaient pas forcément de lien avec Artagon, sachant que quand la maison a ouvert, Pantin n'existait pas encore. Mais ce qui s'est passé, c'est que des personnes venues à la maison ont par la suite été sélectionnées à Pantin. Donc, dans un effet de temporalité, ça a donné lieu à une occurrence dans les deux cas des personnes. Et ensuite, c'est vrai que par la suite, le lieu, à un moment accueillant beaucoup de monde, vraiment à une période où on était très, très ouvert, on avait tout le temps un appel, quasiment en cours, enfin, j'exagère, mais il était vraiment possible de candidater, de recandidater, de venir un moment ou un autre à la maison, auquel cas on valorisait tout autant les personnes n'étant pas des personnes résidentes de Pantin ou de Marseille. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup à un moment accueilli de personnes de ces lieux. Dans un second temps, quand on a décidé d'accueillir moins de personnes, on a réduit et on est parti du principe qu'il était mieux de valoriser des personnes qui ne bénéficiaient pas déjà d'un accompagnement de l'association. Donc en réalité, sincèrement, je pense que si on fait le total finalement de toutes les personnes passées, il y a peut-être 40% des personnes qui étaient liées à l'association avant ou qui le sont maintenant. Et 60% de personnes qui ne le sont pas du tout.
Oui, ce n'est pas du tout pour moi un critère de quelconque, je dirais, appréciation en fait sur le travail. C'était juste pour savoir si cette articulation, elle, était quelque chose qui était pensée, construite ou pas, ou si elle était, comme on l'a vu,
bien sûr,
déjà depuis le début, laissée à une, on va dire, un système d'ouverture sur ce qui se passe.
Après, ce qui est dans tous les cas, tout comme la question des durées des séjours, des temps de fermeture, du nombre de personnes, en fait, il y a plein de choses qu'on a expérimentées au fil des mois et on passe beaucoup de temps à se questionner sur quel est le fonctionnement le plus fluide, le plus pertinent, le plus accessible, égalitaire. Enfin voilà, on se pose beaucoup de questions et notamment la question de ce double accompagnement s'est posée aussi, dans quelle mesure les personnes sont prioritaires ou pas. Voilà. Mais c'est des vrais enjeux qui sont assez intéressants, notamment dans les contextes d'émergence, où finalement, quand plusieurs lieux ou dispositifs se cumulent de cette façon, comment essayer de s'élargir, de donner une place ou un espace d'accompagnement au plus de personnes possible.
Là, la nouvelle formule que vous évoquez de 5 personnes, bien évidemment, favorise, je pense, mais peut-être ce n'est pas vrai, vous me le direz, mais favorise ce côté d'un collectif gérable, en fait, et d'un collectif ouvert. Et est-ce que c'est pensé ou est-ce qu'au contraire, ce lieu doit rester un lieu plus retraite ?
Déjà, pour ce qui est des 5 personnes ensemble, oui, en effet, c'est un nombre qui est très intéressant parce que c'est, comme vous dites justement, suffisamment nombreux pour faire groupe et créer multitude, créer des contrastes de personnalités, d'enjeux, etc., de vraiment faire équilibre entre un groupe de personnes, mais suffisamment peu pour vraiment créer un contexte intime et faire corps, en fait. Et pour ce qui est de l'ouverture sur l'extérieur, c'est quelque chose qui est encore une fois très important et qui l'a été depuis le début. Alors, bien entendu, au départ, on ne nous connaissait pas. Nous-mêmes, nous ne connaissions personne aussi. Donc finalement, ça a été un travail dans un premier temps de prise de contact, de rencontre avec des personnes. Donc chose que j'ai faite et qui est finalement assez informelle. Donc qui peut prendre aussi beaucoup de temps, de prendre la voiture, d'aller rencontrer des personnes, du bouche à oreille aussi. Parfois des rencontres un petit peu hasardeuses qui sont aussi passionnantes. Et dans un second temps, il y a eu tout un travail de mise en place de partenariats ou en tout cas de contextes d'ateliers ou de rencontres ou de programmations qui se sont faits. Donc aujourd'hui, on a principalement soit un accueil d'ateliers ouverts au public où on accueille les personnes sur place dans un espace dédié d'ateliers. Auquel cas, généralement, ce sont des personnes vraiment de grande proximité. Et sinon, on va aller directement dans les endroits dans lesquels on va mener des ateliers. Donc aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des établissements scolaires lycées, des lycées agricoles aussi, qui sont dans la région. On travaille aussi avec des lieux qui accueillent des adultes en situation d'isolement, donc on appelle les GEM, les groupes d'entraide mutuelle. On travaille avec les associations locales, les associations artistiques, de théâtre. Donc voilà, il y a plein à chaque fois, je fais en sorte de réfléchir un peu comme un rôle d'entremetteuse entre des personnes, des artistes qui, à venir, vont arriver. Donc il faut savoir que lors de leur candidature, les personnes spécifient leur volonté ou non de rencontrer du public, avec potentiellement des idées, des hypothèses. Et on précise, nous aussi, d'autre part, que chaque atelier est rémunéré. Dans le contexte de la mise en place d'un atelier, il y a un taux horaire qui est mis en place. Donc voilà, c'est aussi en fonction de la façon dont la personne vient et souhaite investir son temps. Elle nous indique finalement, non, je ne souhaite pas, c'est un temps précieux pour moi d'isolement. Ou oui, je serais ravie de rencontrer des personnes. Et ensuite, d'autre part, ce qui est assez gratifiant, c'est que maintenant, la maison commençant à être connue un petit peu plus dans la région comme justement lieu de culture, en fait, je reçois des sollicitations d'établissements, de professeurs, de personnes de certaines associations. Et ça, c'est très très bien parce que du coup, je sens qu'il y a une réelle demande et je sens qu'il y a une réelle lacune. Vraiment, pour les publics scolaires, c'est assez impressionnant de voir que certains et certaines professeurs ou référents culturels d'établissements sont vraiment un petit peu démunis quant à l'offre culturelle parce que finalement, il y a toujours besoin de se déplacer, de faire des longs transports parfois. Et le fait d'avoir une structure comme la nôtre qui peut se rendre sur place et permettre une rencontre sur mesure avec un ou une artiste, c'est généralement vraiment très précieux pour les établissements.
Donc, il y a des ateliers qui s'organisent, qui sont toujours à l'extérieur de la maison.
La plupart du temps, c'est à l'extérieur. Donc, on en fait aussi ici, sur place. On accueille des publics. Donc, généralement, moi, je fais tout un petit travail de communication locale pour inciter. Mais c'est vrai que la plupart des ateliers, maintenant, de plus en plus, comme on est sollicité, se font à l'extérieur. Donc, nous, on prend la voiture, on se déplace. Tout l'enjeu de ces rencontres-là, c'est que comme ce n'est pas un temps de résidence classique, qui généralement sont des temps de quelques mois présents sur place. Là, on est vraiment sur un temps très court. Il faut vraiment anticiper ces rencontres-là. Donc, il y a un travail d'anticipation, d'organisation en amont à faire pour la personne, pour que tout soit fluide une fois l'artiste sur place.
Oui, mais
place,
il y a aussi le fait que le format même de l'atelier, du coup, est forcément plus adapté à ce temps court nécessaire à cette première rencontre. Là, on voit bien que c'est plutôt une sorte d'atelier éveil-rencontre.
Oui, tout à fait. C'est des temps qui sont courts, qui sont très contextualisés aussi en fonction d'une demande ou d'une envie ou d'un programme en cours. Ce que j'en retire aussi de tout ça, c'est déjà c'est très intéressant de pouvoir accompagner certains et certaines artistes dans leurs premiers ateliers. Et oui, ce qui est intéressant, c'est de voir que parfois les dispositifs les plus simples sont les plus efficaces en termes de rencontres, justement dans un contexte de temps court. Par exemple, les ateliers d'écriture sont d'une efficacité, enfin, j'aime pas ce terme, mais c'est très déconcertant à quel point parfois un sujet si simple qui peut être mis sur la table et un temps d'écriture collective dans le silence suivi d'une lecture, par exemple, peut amener à une qualité de rencontre en très peu de temps. Et c'est assez encourageant en termes de volonté de mettre en place des rencontres entre des publics ou des personnes qui peut-être ne se seraient jamais croisées.
Mais je suis un peu curieux par rapport aux gens de Vitry, comment ça se passe ?
Eh bien, les personnes de Vitry, ça se passe bien. Parce que je pense que, pareil, donc c'est une grande maison. Bon, bah, on ne les connaît pas trop, on ne sait pas trop qui les elles sont. Et en fait, on a assez souvent tendance à aller au Bub, qui est le bar PMU café de Vitréologe. Et dans ce contexte, bah, on croise les habitants. Et c'est vrai que souvent, nous-mêmes, on est des jeunes personnes, avec parfois vraiment des styles, j'ai envie de vous dire, très simples. Enfin voilà, on se promène entre nous et finalement, ça brise assez vite la glace parce que finalement, les gens se rendent compte qu'il y a une simplicité aussi dans notre façon d'être. Et du coup, c'est assez intéressant parce que soit parfois, il y a des a priori et du coup, très vite, c'est un petit peu contrasté par le fait de voir que on n'est pas du tout... Il n'y a pas de tant d'écart que ça entre nous. Il y a beaucoup de curiosité sur ce lieu, sur ce qu'il est, comment finalement les personnes vivent au quotidien, qui elles sont. Donc souvent, on me questionne beaucoup. Dès que je parle du lieu, on me questionne sur mais qui est là en ce moment, quels sont les artistes, les types d'art, les types de pratiques. Et c'est assez intéressant justement de pouvoir faire des ateliers parce que du coup, ça permet aux personnes de rencontrer ces artistes. Donc c'est assez, finalement, c'est tout le temps très
Quand
positif.
Quand vous faites un atelier, vous faites une annonce, vous faites...
Oui, on passe par la communication locale. Donc concrètement, on va aller poser des affiches, on va distribuer des flyers. Il y a aussi beaucoup l'office du tourisme qui nous aide, qui relaie l'information, des applications locales d'information type panneau pocket. Voilà, on passe vraiment. J'ai aussi des personnes que je connais qui sont elles-mêmes investies dans les réseaux associatifs locaux, donc je leur transmets les affiches. C'est relayé par mail, par Facebook. Donc j'ai aussi toute une liste de contacts que je connais aujourd'hui de personnes qui sont habituées. Voilà, c'est vraiment à petite échelle, mais finalement, en fait, c'est comme ça que ça se passe et il n'y a pas besoin de faire plus grand parce que c'est juste adapté au contexte dans lequel on est.
On va aborder la dernière question parce que je crois qu'on aura déjà bien, je pense, compris un peu l'esprit, enfin moi je l'espère, de ce lieu. Il y a une chose qui me semble assez importante pour l'ensemble des activités de Artagon, c'est cette idée de porosité de toutes les formes d'art. Et je me demandais, est-ce que c'est en fait quelque chose qui est fondamental par rapport à la conception de la philosophie de l'art, de la structure, ou est-ce que c'est lié à son approche sociale ?
Je le vois peut-être plus du point de vue du lieu dont je m'occupe. Je pense que c'est les deux, mais c'est aussi avant tout les... Enfin, je ne pense pas que l'association Artagon soit en soi uniquement motrice de ça. Je pense que c'est vraiment des choses qui se passent, des dynamiques actuelles dans le champ de la création, du coup au sens large et du coup pas que l'art contemporain, puisque comme vous dites, il y a une porosité. À mon avis, c'est juste des dynamiques actuelles de la création, de cette porosité aussi parfois, par exemple, entre la création, j'ai envie de dire pure, et la recherche. Entre l'écriture et la création plastique visuelle. Donc plein d'enjeux. Aussi, je pense que c'est, comme vous dites, parce que l'association a cette dimension sociale, mais parce qu'aujourd'hui, au sens plus large, la création et l'art a cette dimension politique et sociale. Du coup, forcément, il y a quelque chose d'assez fort. Moi, je le ressens dans comment dire, les ressources et les livres qu'on regroupe et qu'on réunit, basés sur des recommandations des personnes qui passent ici, c'est constamment des recommandations de livres d'autres disciplines, du champ de la philosophie, du champ de la politique, du champ des sciences. Et c'est toujours finalement de venir nourrir les créations, la création de ces réflexions et de ces ressources-là. Et donc ensuite, d'avoir des personnes qui ont des profils... finalement très qui ont plusieurs chapeaux, qui ont plusieurs pratiques, qui ont parfois plusieurs statuts, d'une part écrivain-écrivaine, d'autre part éditeur-éditrice, graphiste. Et je pense que l'association Artagon valorise ça, met en place les outils et les contextes qui permettent à cette porosité de s'épanouir. Par exemple, la maison accueille tout autant des professionnels de l'art que des artistes, que par exemple des chercheurs-chercheuses, ce qui est très rare. Et à nombreuses reprises, il m'a été signalé finalement cette singularité importante de pouvoir mêler toutes ces personnes, parce que finalement, la plupart du temps aussi, quand on candidate par exemple à des gros appels ou à des grosses bourses, il est essentiel de se catégoriser comme étant faisant partie du spectacle vivant ou des arts visuels, alors que par exemple les performeurs et performeuses sont au parfait entre deux de cela. Et c'est vrai qu'Artagon ne cherche pas du tout à étiqueter ou catégoriser à ce niveau-là. Et je pense que ça en fait la richesse et l'attractivité des lieux. C'est-à-dire qu'une personne qui va, par exemple, être rédactrice pour un média peut être résidente à côté d'une personne qui est poète. Et ça permet à ces personnes d'échanger et de se rendre compte que finalement... il y a des liens importants et de se nourrir. Et je pense que c'est aussi tout l'intérêt pour les personnes résidentes des différents...
Au-delà même, en fait, de la logique que l'art aujourd'hui est entré dans une porosité totale des domaines, mais c'est aussi de promouvoir cette vision-là. Hein. C'est certainement aussi avoir une position politique forte par rapport à d'autres courants qui ont des enjeux qui sont plus structurés à partir des médiums ou autres.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Merci beaucoup pour cette longue discussion.
Merci beaucoup.